Africa.
Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Africa.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur la radio africaine comme tous les lundis à partir de 20h11. J'ai dit 11, mais là il est 15. Notre rendez-vous hebdomadaire consacré au football africain à travers le monde. D'abord sur le continent avec les matchs amicaux. Ensuite en Europe avec les différents championnats que nous vous proposons chaque lundi. L'Espagne, l'Angleterre et la France. Pour vous décortiquer tout cela bien sûr. Le doyen Willy Dorkono, bonsoir doyen.
Oui, il bonsoir.
Toujours présent. Ah,
oh là là. Toujours. Ah ben, comme ouais. D'habitude.
Ah ouais, c'est belle chemise. Hein.
Merci.
Mais comment tu fais pour avoir ces belles chemises-là tout le temps, là, nom de Dieu.
Merci.
Ah non, mais c'est pas possible, ça.
Bonsoir, Regard. Bonsoir, Monsieur Blanc. Bonsoir, Hakim. Christian va nous rejoindre tout de suite. Donc, bonsoir à tout le monde. Et on est prêt.
Oui, bien sûr. Hakim, bonsoir.
Bonsoir, coach Lamine Badiane. Bonsoir à Willy Dorkono. Willy Dorkono, toujours habillé. On ne donnera pas l'adresse de son.
C'est normal, vu ce qu'il est payé. C'est
non,
normal
non,
qu'il
on
puisse.
On ne donnera pas l'adresse de son couturier. En tout cas, moi je peux vous dire que doyen.
Doyen, tu peux me filer cette chemise là.
Il faut le voir. C'est toujours. Sur son 31. Il vient le lundi.
Mais parlons du foot.
Non, c'est le foot aussi. C'est pas normal ça. Moi, j'avais demandé une augmentation de salaire. Hein, je veux un salaire comme le tien. Bien sûr, on attend le fils prodige. Bien sûr, il s'agit de Christian Chango qui va nous rejoindre et Valentin Blanc, l'homme aux doigts de fée, qui va nous réaliser cette émission. Messieurs, c'est parti pour les championnats africains. L'actualité sur le continent, c'est la délivrance aussi, hein, une actualité consacrée aux matchs amicaux. Les équipes nationales africaines de football vont faire leur retour sur les terrains entre le 5 et le 13 octobre 2020, donc c'est à partir de la semaine prochaine,
ouais.
Après presque une année d'absence doyen Willy, ouais. À cause du Covid-19.
Ouais.
Alors ces rencontres amicales serviront de grande préparation pour la suite des qualifications de la CAN 2021, qui ouais. Devrait se jouer entre le 9 et le 17 novembre et le CHAN 2020 du 16 au 7 janvier 2021.
Oui, mais l'absence, mais ce qui est sûr, c'est que pendant l'absence et la préparation, est-ce que ça a été fait? On ne sait pas.
Oui, bien sûr, le contexte sanitaire a rendu totalement difficile l'organisation de ces matchs amicaux. Ce sera donc entre le 5 et le 13 octobre.
Ouais.
Ce sont les fenêtres FIBA.
Oui. FIFA.
FIFA, pardon. Ouais. C'est une déformation professionnelle.
Ouais.
Réservée aux équipes nationales que les sélections africaines vont faire leur grand retour sur les pelouses. Et il y a du travail en perspective. Entre le 9 et le 17 novembre, la Confédération africaine de football a programmé deux journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Puis du 16 au 7 février 2021, il y aura le championnat d'Afrique des Nations 2020 réservé aux joueurs locaux, une compétition reportée de 9 mois à cause du coronavirus.
Yes, ouais.
Donc, bien sûr, il y a un casse-tête organisationnel parce qu'il faut trouver un adversaire. Et pour trouver un adversaire pour les fédérations africaines, ce n'est pas évident.
Oui, c'est très compliqué.
Les sélections européennes seront en effet accaparées par les 3 et 4e journées d'accord, de la Ligue des Nations.
Oui.
En Amérique du Sud, cette période d'octobre servira à débuter les qualifications pour la Coupe du Monde 2022.
Oui.
Donc, il y aura beaucoup de confrontations interafricaines et quelques matchs face à des sélections asiatiques.
Oui, mais c'est intéressant déjà ça. Parce qu'il y a très peu de confrontations entre nous déjà.
Ah, exactement. Ouais. Donc maintenant, hormis la situation organisationnelle, il y a ce qu'on peut appeler le lieu. Et les lieux pour les stages et les rencontres, certains pays comme l'Angleterre et la France, ce n'est pas simple d'y aller par rapport à d'habitude. Le coronavirus oblige.
Ouais.
Mais quelques destinations, par contre, tirent en revanche le épingle du jeu à l'image du Portugal, qui pourrait accueillir jusqu'à une dizaine de sélections africaines le mois prochain. Mais les options en Afrique, en Asie et en Europe ne sont pas beaucoup en tout cas.
Oui, parce que les joueurs ne sont pas sur place en Afrique. La plupart des fédérations s'arrangent pour avoir leurs joueurs à l'extérieur du continent. Donc, c'est plus facile pour eux d'organiser des matchs amicaux à l'extérieur du continent. Ce que j'aime pas trop, mais ils sont obligés.
Donc, on risque, Hakim, d'aller vers des annulations de matchs de la dernière minute au vu du contexte sanitaire. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a quand même des aéroports qui ne sont pas encore ouverts ou bien des autorités qui n'ont pas encore donné l'autorisation de rentrer dans les pays.
Ouais. Oui, complètement. Alors, Coach Lamine, pour répondre à cette question, effectivement, c'est l'organisation des matchs amicaux ou des rencontres sportives actuellement, elle ne touche pas seulement que le football. Il faut le rappeler à nos auditeurs et nos auditrices, ça touche aussi bien le basketball que le hand, mais notamment aussi que les autres sports pour tout ce qui est préparation, la natation, etc. Pour quelles raisons ? Tout simplement par rapport, effectivement, comme vous l'avez souligné, Lamine, à ces fermetures de ponts aériens qui nous obligent, en fait, par rapport à tout ça, d'opter pour une organisation différente. Cette organisation-là, elle est obligatoirement, Coach Lamine, provoquée par la crise sanitaire. On a l'exemple parfait de l'équipe algérienne qui devait jouer... Enfin, il se murmurait des rencontres amicales avec des sélections. Cette fois-ci, c'est... Le programme de rentrée pour l'Algérie, il a été donné. Ça sera un match amical, bien sûr, officiel face au Nigeria, qui devrait se jouer le 9 octobre en Autriche. Vous voyez, il y a des déplacements qui se font en Europe. Pourquoi ? Parce que, Coach Amine, on a une majorité de joueurs algériens qui évoluent, que ce soit sur le championnat européen ou en Algérie ou en Tunisie. Du coup, ça sera effectivement une proximité un peu facile. Mmh. L'Europe, il faut le rappeler, Lamine. Les ponts aériens sont ouverts au niveau des avions, au niveau des vols. Il n'y a quasiment ou presque pas de restrictions, que ce soit par exemple en France, en Allemagne, en Autriche, etc. Donc du coup, l'Algérie par exemple, si on prend cet exemple-là, Coach Lamine, il y aura un match amical contre le Nigeria en Autriche. L'autre adversaire connu pour les Fenecs de Jamel Belmadi, ça sera le Mexique. Et qui aura lieu probablement encore une fois, Coach Lamine, pour faciliter en fait les ponts aériens, donc qui se jouera aux Pays-Bas. Donc on a cette complication-là des vols et effectivement des ponts aériens qui sont un petit peu compliqués en ce moment, mais on doit s'organiser pour rester en jambes, parce qu'il faut le rappeler, il y a des échéances, et ces échéances-là ne sont pas annulées, bien que quelques-unes ont été reportées.
Voilà, alors donc ceci dit par rapport à l'Algérie, on reviendra sur l'Algérie bien sûr, puisque c'est à la dernière minute qu'on a eu cette information comme quoi l'Algérie va rencontrer le Nigeria, parce que l'Algérie cherchait encore un adversaire. Ouais. On a failli dire la France, mais finalement la France n'a pas, je dirais, le président de la fédération, votre ami Le Graët, a dit...
C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop aussi.
Justement.
Ouais, ils n'aiment pas trop ça. Donc, mieux vaut le Nigeria, parce que le Nigeria, par rapport au niveau actuel du Nigeria ou au niveau du Nigeria sur le continent, c'est bien pour l'Algérie.
Alors, en tout cas, on a les matchs qui devraient donc se... D'abord, on va commencer par le programme. Le 7 octobre, il y a Andorre-Cap-Vert à Andorre. Et Zambie-Malawi à Lusaka. Alors, doyen, peut-être un petit...
Oui, c'est un bon test déjà pour la Zambie, parce que jouer un pays limitrophe, déjà, c'est un petit derby. Donc, c'est bien, parce que la Zambie, à un moment, ils sont plus comme la Zambie qu'on connaissait. Donc, on attend la Zambie, le retour de la Zambie qu'on connaît bien.
Le Cap-Vert, lui, aura deux matchs face à Andorre et à la Guinée. Alors, l'occasion pour le coach, le nouveau sélectionneur Boubista, de dévoiler sa liste. Il a dévoilé sa liste avec cinq nouveaux joueurs. Il y a Dylan Tavares, ouais. Steve Furtado, Patrick Andrade et Willis Furtado et Willis Semedo sont ouais. les petits nouveaux.
Oui, la plupart des joueurs évoluent au Portugal, donc c'est pas loin, Andorre. Donc.
Voilà, justement. Donc,
ils jouent à la maison.
Quoi. Willis Semedo qui joue aussi à Grenoble en France. On a beaucoup de joueurs qui sont vraiment de à l'extérieur. Oui. On connaît Stéphane Fortes qui joue à Lens.
Ouais.
Hein, on connaît aussi le Kenny Rocha qui joue à Nancy en France. Alors, en fait... C'est réellement aussi, comme on le dit toujours, ce sont des joueurs qui jouent à l'extérieur. Il n'y en a aucun, vraiment, par rapport à ces joueurs qu'il a convoqués, aucun joueur qui joue, bien sûr, dans le championnat capverdien.
Oui, ça, il faut comprendre ça, parce que le Cap-Vert est un tout petit pays, donc le championnat ne peut pas aider les joueurs à avoir un très, très bon niveau. Donc, la plupart sont expatriés au Portugal. C'est le cas aussi de la Guinée-Bissau. Mmh. Donc, pour eux, je comprends, par rapport aux autres pays, non. Mais pour le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Saint Thomé au Principe et compagnie, on peut comprendre.
Alors, le retour de Ryan Mendes. Vous vous rappelez de Ryan Mendes, ce joueur qui est joué à Bordeaux. Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, coach Lamino. Non, on...
Ryan Mendes, oui.
Ouais. Oui. Oui, à propos de Ryan Mendes, coach.
Oui, je parle de Ryan Mendes et Julio Tavares, qui sont bien présents par rapport à la liste.
Oui, sur la liste, effectivement, pour le Cap-Vert, ce sont... moi, je pense que c'est deux joueurs qui peuvent apporter énormément. Ryan Mendes, qui lui a joué quelques temps donc, du côté de l'Europe, notamment en France, coach Lamine. Mm-hmm. On le connaît notamment... son visage ne nous est pas inconnu quand on a vu cette belle Coupe d'Europe. Où il avait effectivement...
En tout cas, aujourd'hui, il est à Al-Nassr, aux Émirats Arabes Unis.
Oui, alors... Actuellement, coach Lamine, il a signé en fait du côté de Ryan Mendes à un nouveau club. Il a quitté en fait le club du Sarja FC pour rejoindre un autre club. Effectivement, c'est Al Nasser. Lui que l'on avait vu effectivement en Europe, comme je le disais tout à l'heure, on a vu d'autres joueurs, hein, notamment des anciens de l'équipe du Cap-Vert, notamment lors de la Coupe d'Europe où la France avait rencontré le Portugal. Ryan Mendes, c'est un joueur qui est intéressant, coach Amine. Il n'est pas aussi vieux que ça, il a 30 ans. Il a fait deux saisons du côté du Moyen-Orient. Alors certes, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile, coach Amine, pour lui. Mais bon, moi, je le verrais bien, effectivement, pourquoi pas revenir en Europe. Il a encore les moyens, il a encore toutes les capacités. Après, le fait qu'il soit exilé un petit peu du côté du Moyen-Orient... Ça force effectivement les sélectionneurs, les entraîneurs, les managers à pas forcément avoir un œil critique sur lui, même si on a confiance en lui. Maintenant, c'est une bonne chose pour la sélection du Cap-Vert. C'est quelqu'un de solide et qui joue très bien. Mmh. Il évolue du côté en tant que milieu offensif du côté des Émirats Arabes Unis à Sarja. Mmh. Là, ça va être une bonne. Je pense que c'est une bonne recrue pour la formation de l'Arab Golf League pour deux saisons, coach Lamine. Ça va lui faire du bien maintenant. Moi, je trouve que c'est dommage. Il devrait, pourquoi pas, essayer de rejoindre un petit peu l'Europe parce qu'il a encore les capacités, il a encore les jambes et il sert vraisemblablement tout à fait bien sa sélection quand il joue avec le Cap-Vert.
En tout cas, le fait d'être du côté des Arabes Unis n'est pas non plus... Même si le championnat n'est pas un championnat super coté, mais ça peut dire que quand même, ce sont des joueurs avec une certaine expérience qui peuvent vous permettre de vous en sortir lors de certains matchs, quoi, avec les Requins Bleus.
Il faut juste qu'ils jouent là-bas. Donc, dès qu'il est en compétition, ça suffit déjà parce que les Cap-Verdiens sont des joueurs qui sont très, très techniques et la plupart formés sur
la base du Portugal.
Oui, au Portugal. Donc, ils sont très en forme. Donc, moi, je n'ai pas peur pour lui. Mm. Et pourvu qu'il joue là et là-bas. Donc, un joueur doit jouer. S'il joue, et ça passe.
Alors, on a d'autres matchs, cette fois-ci, non pas le mercredi 7 octobre, mais c'est le jeudi 8 octobre entre Mozambique, Guinée-Bissau au Portugal, Libye-Comore en Tunisie et l'Afrique du Sud contre la Namibie, mais le lieu n'est pas encore indiqué. En tout cas, Mozambique, Guinée-Bissau au Portugal et Libye-Comore en Tunisie, ce serait pas mal aussi, même si au niveau des Comores, on est en train de se poser des questions, Hakim, je ne sais pas si vous avez des nouvelles concernant les Comores.
On a essayé de contacter la Fédération comorienne de football cet après-midi, notamment aussi Coach Lamine le week-end dernier. On a essayé de contacter l'ancien manager général de cette fédération de football. Nous n'avons pas réussi à les joindre. Malheureusement, on a fait une requête, notamment par courrier, pour pouvoir justement avoir un retour de leur part et quelques réponses par rapport à nos interrogations concernant la situation un petit peu compliquée que vit le football comorien en ce moment. Mais nous n'avons pas réussi à les joindre, Coach Fabien.
Effectivement, en effet, d'après nos informations, les Comores ne pourraient pas honorer leur engagement le mois prochain. La raison, un manque de moyens financiers évoqués par le comité de normalisation. Parce que effectivement, le comité de normalisation, c'est lui qui est en train de veiller au football comorien actuellement. À la suite d'une grave crise l'année dernière, la Fédération de football des Comores est sous normalisation. Normalement, son mandat se termine le 30 septembre, mais une prorogation est dans l'air et surtout que les élections n'ont pas encore eu lieu. En effet, des membres de ce comité, par l'entremise de sa présidente, sont en train de biaiser la préparation de Koh Lantès, car cette dernière refuse de prendre ses responsabilités en rejetant toute la faute sur l'État comorien qui, selon elle, fait traîner les choses. Donc, in fine, les Comoriens, l'équipe nationale de Comores, Koh Lantès, plutôt en grande forme à l'entame des éliminatoires de la CAN 2021, pourraient voir leur effort noyé.
Oui, mais les forfaits sont sanctionnés en ce moment.
Même pour les matchs amicaux?
Dans le temps, non. C'est parce que les forfaits, quand je parle de forfaits, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, mais après les matchs amicaux, il y a les matchs officiels qui vont suivre. Mmh. J'espère qu'ils vont honorer les rencontres des matchs officiels.
On va en profiter pour dire un petit coucou donc à Christian Chango qui s'est bien installé. Christian, ça va? Ça a été vos vacances, monsieur Chango, vous avez de la chance. Vous, hein.
Bonsoir coach, salut Willy,
oh, salut
Valentin, Hakim et tous les auditeurs. Oui, on a bossé dur hein, depuis le déconfinement, donc on a rechargé les batteries pour repartir en forme. Donc ça va, merci coach.
Voilà, alors donc nous sommes en train donc de décortiquer le programme des matchs amicaux africains. L'Afrique du Sud contre la Namibie, bon, c'est pas très loin. Je veux dire que même si le lieu n'a pas été vraiment nommé, je pense que quand même c'est
bien
une
sûr.
Situation.
Et puis de toute façon, globalement, on le voit sur l'organisation un peu de tous ces matchs amicaux. Il y a deux paramètres. Le premier, bien entendu, la pandémie qui complique quand même les organisations, la réception des joueurs d'un pays à l'autre. Les frontières sont fermées, les vols sont interdits, donc c'est compliqué. Donc pour organiser les matchs, je sais pas si on avait déjà parlé, mais notamment pour la Côte d'Ivoire, on a vu des matchs annulés face à tel adversaire puisque le lieu de rencontre ne correspondait pas où les deux matchs amicaux pouvaient se tenir. Donc vraiment, on est dans une gestion compliquée. Et en plus, là, pour parler des Comores, on salue Nassourdine au passage, Nassourdine Abdila, que j'avais essayé de contacter justement. Je lui ai demandé si c'était lui, en petite boutade, si c'était lui qui avait pris tous les sous de la Fédération comorienne. Il m'a dit que non. Mais oui, c'est compliqué aussi hein, avec la pandémie. Pour les clubs, pour les fédérations, c'est compliqué aussi. Donc on le voit, malheureusement, pour la Fédé comorienne, c'est dur de lier les deux bouts. Quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Et on espère quand même qu'un maximum de matchs amicaux vont pouvoir se tenir puisqu'on a besoin de voir nos sélections reprendre ensemble, voir un peu à quel état de forme sont les uns les autres, c'est quand même important.
En tout cas, je vais encore l'embêter, mon cher ami Nassourdine, oui, que j'aime beaucoup, juste pour lui dire que de toutes les façons, ce n'est pas une grosse perte si les Comores ne jouent pas. Et je l'attends au téléphone. En tout cas, c'est le vendredi 9 octobre qu'il y aura le plus gros des matchs amicaux. Il y aura Maroc-Sénégal à Rabat, Burkina Faso, RD Congo au Maroc, Congo-Brazzaville, Gambie au Portugal, Soudan-Tunisie à Rades, Nigeria-Côte d'Ivoire en Autriche, Japon-Cameroun à Utrecht aux Pays-Bas, Ghana-Mali en Turquie, Mauritanie-Sierra Leone à Nouakchott. Doyen.
Oui, mais c'est intéressant déjà. La plupart, il y a une partie des matchs sur le continent et d'autres ailleurs aussi. Et le fait que le Ghana joue en Turquie, par exemple, ça va essayer de faire voyager notre football qui va être connu par d'autres peuples. Donc, c'est intéressant. Les matchs amicaux, ça va essayer de mettre en route nos équipes parce qu'un an sans jouer, ils jouent, c'est vrai, mais un an sans l'équipe nationale, c'est un peu... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on attend voir.
Alors, pour parler peut-être du Mali, sachez qu'il y a une petite dispute, ce n'est pas une dispute, je veux dire qu'ils ont convoqué deux joueurs.
Ouais.
Il s'agit d'Abdoulaye Doucouré, le petit jeune qui sort des Mureaux, hein, qui a joué à Watford et qui aujourd'hui joue à Everton.
Un très bon joueur.
Il a un très très bon joueur. Bon, c'est ma formation quand même.
Ouais.
Et qui aussi, il y a Adama Traoré. Le problème d'Adama Traoré, n'oubliez pas qu'il a été convoqué trois fois de suite pour l'équipe d'Espagne.
Ouais.
Mais Dieu a fait que il n'a pas pu jouer avec l'Espagne. Donc, il a été convoqué pour le Mali. Pensez-vous que ce soit une possibilité pour l'équipe des Aigles du Mali avec Mohamed Manga Souba, le sélectionneur du Mali, qui pourrait l'avoir dans son équipe?
Oui, mais s'il admet jouer pour le Mali, c'est une bonne chose. Mais s'il ne veut pas, c'est son choix à respecter. Mais le problème du Mali, le Mali n'a pas besoin de courir après des joueurs binationaux.
Tellement
ils en ont plein. Et le Mali est un grand pays de football en Afrique. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, le Mali n'a pas besoin de courir après des binationaux, comme d'autres pays, quoi.
C'est ça que je suis en fait. Surtout, encore pour Abdoulaye Traoré, la tentative de le sélectionner.
Adama Traoré.
Non, pour Abdoulaye Doucouré d'abord.
Doucouré, ouais.
Oui. Oui, qui joue à Everton. Encore son choix, la tentative de la sélection et du sélectionneur malien est légitime, puisque le joueur, pour l'instant, n'a jamais été sélectionné ou avec le Mali ou notamment avec l'équipe de France. Donc le choix, la tentative est normale. Par contre, pour Adama Traoré, je trouve que quand même, on est en train de forcer parce que son choix, il a été défini. Sans les deux dernières blessures, malheureusement, qui lui étaient tombées dessus, il aurait évolué sous le maillot de la Roja de la sélection espagnole. Donc c'est encore retenté alors que ils savent pertinemment, la Fédé malienne sait pertinemment que Adama Traoré va refuser la convocation. C'est un choix pour lui qui a été fait. C'est honorable il doit être fier de recevoir la sélection malienne, mais son choix a déjà été fait vers l'Espagne. Donc je trouve que c'est un peu dommage de forcer encore, puisque comme l'a justement dit Willy, des joueurs, hein, vous en perdez un, il y en a à l'appel. Donc son choix a été fait, il faut le respecter et puis partir sur d'autres joueurs.
Surtout au niveau du Mali. Alors, supporters maliens, venez nous rejoindre pour le cas d'Adama Traoré, 01-55-07-58-00. Hakim, il y a un défenseur de Strasbourg, Alexandre Djikou, qui a été convoqué pour la première fois en équipe nationale du Ghana. Il est né à Montpellier, de père ghanéen et de mère française. Il va porter les couleurs des Black Stars. Le défenseur central de Strasbourg est la principale nouveauté de la liste du sélectionneur Akonor en vue de l'amical face au Mali le mois prochain.
Ouais, c'est une bonne chose, Lamine. Quand on sait effectivement qu'actuellement, au niveau du football malien, ça reste un petit peu compliqué.
Ghanéen, tu voulais? Ghanéen ou malien?
Ghanéen, pardon. C'est vrai que ça fait un moment en fait qu'on n'a pas revu en surface la grande et belle équipe du Ghana, les Black Stars comme on les appelle, que ce soit en Coupe d'Afrique ou même Coach Lamine en championnat d'Afrique des Nations, pour voir un petit peu ces joueurs locaux. Donc ça, c'est une bonne chose, mettre la lumière un petit peu sur des jeunes joueurs ghanéens qui ont un talent et qui peuvent effectivement apporter beaucoup plus que ce que n'ont apporté les anciens joueurs et la génération dorée des champions du monde des moins de 20 ans ou éventuellement des quarts de finalistes du mondial contre l'Uruguay. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, le Ghana doit encore travailler, doit encore prouver. On le voit aussi encore, Coach Lamine, en Coupe de la Confédération africaine ou en Ligue des champions africaines. Le Ghana, ce n'est pas ce que c'était. On les voit peu ou prou donc du côté des phases finales et des derniers carrés. Maintenant, le football ghanéen subit un petit peu de plein fouet, comme l'avait souligné, je me souviens, lors d'un tout feu tout foot un petit peu avant cet été, Willy Dorkenou qui soulignait, qui connaît bien ce football, que tant que les championnats effectivement ne sont pas attractifs, tant que les championnats c'est-à-dire ne
ne plaisent pas, ne plaisent pas.
Oui, ouais. Comme on a pu le voir sur le comme on peut voir le championnat marocain par exemple, ou le championnat de la République démocratique du Congo, il faut le dire. Eh bien, ça sera un petit peu compliqué. Tant que les moyens ne seront pas mis en œuvre pour pouvoir aider justement ces championnats-là, sportivement effectivement pour les joueurs qui veulent un petit peu s'exiler en Europe ou ailleurs, bah ça va être difficile, coach. Mmh. Donc le football commence effectivement par le football déjà local pour une sélection. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose pour ce Ghanéen qui va évoluer en Europe, qui va voir autre chose et qui pourrait apporter quelque chose de nouveau, du sang frais pour cette sélection des Black Stars.
En tout cas, il est très enchanté. Il a 26 ans et il viendra pallier l'absence de Mohamed Salissou qui joue à Valladolid et qui est très juste actuellement. Alors justement, vous avez parlé du Congo. On va venir vers le Congo avec l'entraîneur Valdo. Le Brésilien, le sélectionneur brésilien du Congo, qui a appelé deux nouveaux joueurs en vue du rassemblement du mois prochain, ponctué par un match amical face à la Gambie. Il s'agit des binationaux Will César Matimbu, entente Sanoa Gracien, et Randy Goteni de Dunkerque, passé par Troyes. Ouais. L'attaquant Bifuma, transféré cet été en Chine, est bien présent, tout comme le milieu de terrain Junior Lukusu, parti, lui, du Stade tunisien en 4e division espagnole, celui dont on a parlé la semaine dernière, ouais, qui était capitaine de l'équipe junior et qui, lui, a préféré s'expatrier vers la 4e division espagnole parce qu'il avait tout simplement envie de jouer du côté de l'Europe.
Ouais, mais on a vu que le nouveau sélectionneur a rapidement commencé par rappeler des expatriés, des binationaux, parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas très bien le championnat et là-bas, mais je ne sais pas à quel moment il est venu au Congo. Contrairement à M. Ibenge, qui lui, il fait des efforts à prendre des joueurs évoluant au Congo. Mmh. Donc pour moi, c'est vrai qu'il commence comme ça, mais j'aimerais bien qu'il essaye de s'approcher du championnat congolais et de voir ce qui se passe dans le championnat. Parce qu'il faut toujours, comme je le dis, je vais toujours le répéter, se baser sur le championnat pour former et la sélection nationale. Sinon, ça ne marchera jamais.
En tout cas, au niveau de sa sélection, au niveau des Diables Rouges, ce que je peux vous dire, c'est que ça part de l'entente Saint-Gratien D4 en France à la D2 à 3. Il y a des joueurs qui jouent en Croatie, à Shenzhen, des joueurs qui jouent en Azerbaïdjan. Ouais, mais réellement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose pour des matchs amicaux, pour venir rappeler des joueurs qui jouent comme Durel Avounou au Mans, en Détroit, en France, ouais, et qu'on aurait pu quand même faire, par rapport à ces matchs amicaux-là, une revue d'effectifs des joueurs qui jouent sur à la maison.
C'est pour ça que je dis que beaucoup de gens pensent que une D4 en Espagne vaut mieux qu'une D1 au Congo, ouais, ce qui ça n'est pas vrai. Sportivement, c'est pas vrai, mais il faut connaître la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'idées sur le championnat ou bien sur le niveau des footballeurs africains sur place. La plupart n'ont pas, même les fédérations, ils n'ont pas cette idée-là. Donc il faut des gens qui connaissent très bien le football africain pour savoir de quoi je suis en train de parler.
En tout cas, hormis Bifuma qui joue à Shenzhen en première division chinoise, tout le reste, je peux vous dire que c'est quand même des inconnus chez les inconnus. On va aller du côté du Standard. Aïko, bonsoir Aïko.
Allô?
Oui, on vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir, Motemig Nabino.
Ah, bonsoir, voilà Kitoko.
Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Je suis content quand je vous entends. Ça fait du bien pour le football africain. Ouais.
Merci beaucoup.
Ouais. Moi, je voulais parler pour le match qui va se jouer entre la RDC et le Burkina Faso au Maroc. Oui. Moi, j'espère que ça sera vraiment chaud, mais notre équipe n'est pas vraiment... Bon, avec les nouveaux joueurs que vous venez de parler à tout à l'heure.
Non, ça c'est les Diables Rouges, hein. C'est pas les Léopards. Hein.
Ah, c'est pas les loupards, ouais. Moi, je parle bien. C'était loin de moi.
Non, mais les léopards, c'est Christian Changou qui va vous en parler dans quelques instants. Là.
Ouais, mais je serai content. Mais je sais que ce match-là va bien se passer. Mais les léopards, nous soutenons toujours notre équipe. Nous savons que les léopards va gagner le match. Et nous sommes toujours comme un accord avec notre équipe et avec toute l'équipe de Africa Foot. Et votre radio, nous vous soutenons de ce que vous faites. Vraiment, ça fait du bien. Ce que je voulais dire vraiment pour cette soirée, c'était ça. Ouais.
Oui, mais vive les Congo,
vive les Léopards, vive l'équipe nationale. Et nous allons gagner et aller vraiment plus loin pour cette année, malgré les coronavirus. Mais nous savons que le football africain va plus loin après les coronavirus.
D'accord, merci Aïko. Christian Changou, peut-être des nouvelles du côté des léopards, justement. Oui, est-ce que vous avez quelques petites croustillantes face au Burkina Faso de notre ami El Mehor?
La Mehor de Dama, oui, tout à fait. On a vu donc la liste de 28 joueurs qui a été dévoilée par Christian Tsengim Biambe, le nouveau sélectionneur de l'équipe des léopards. Donc on a vu déjà, donc on précise, Cédric Bakambu, lui, n'est pas dans la liste. On sait par rapport du fait qu'il évolue du côté de la Chine, c'est plus compliqué d'être libéré. Donc pour ces matchs amicaux, Bakambu notamment, c'est l'absence principale de cette liste. Et Jackson Muleka, qui évolue du côté du Standard de Liège en Belgique. Donc lui ne sera pas là, ne sera pas de la partie. Sinon après, pas de grands changements, quelques nouveaux quand même qui rapplique dans cette liste, notamment Gédéon Kaloulou, donc le latéral droit qui évolue en Ligue 1, pardon, du côté d'Ajaccio, qui lui forme à Lyon. L'ailier de Lorient aussi, Johan Wissa. Gaël Kakuta, oui, mais c'est pas un nouveau, lui. Donc, mais il est là,
effectivement. Mais il était absent quelques temps.
Tout à fait. Donc, lui, auteur du monde de saison, qui est là aussi. Donc, il y a quelques nouveaux joueurs qu'on va voir évoluer et peut-être avoir leur nouvelle sélection. Mais sinon, les retours, comme l'a dit Hakim, de Kakuta, de Kebano aussi, qu'on voit évoluer du côté de
c'est une belle liste, hein, Christian.
Oui, oui, bien sûr, il y a du talent à revendre, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour les principales news, notamment l'absence de Cédric Bakambu.
Du côté du Gabon, en tout cas, Patrice Neveu, lui, a livré lundi la liste des 23 joueurs retenus pour l'amicale face au Bénin. On ne connaît pas encore la date à Lisbonne, hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur la liste des 23 joueurs convoqués par le technicien français, figurent tous les paliers Doyen Willy des Panthères avec les Fa Mezui, Ekwele Manga, Palone, Poco, Ndong, Bouanga et bien sûr Aubameyang. Il figure également du 109 avec le jeune gardien Junior Nubi Fotso qui joue à Cholet, le défenseur Sidney Obisa passé pro à l'AS Ajaccio cet été et le milieu de terrain Nathael Bongo Mburu qui joue à Maritzburg United en Afrique du Sud et l'attaquant Fait Nzenge, d'abord Zedzana Slovénie.
Coach, tu as mis une triste nouvelle pour l'ex-arbitre international gabonais Théophile Vinga qui n'est plus et qui nous a quittés. On lui souhaite vraiment toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Ouais, condoléances à la famille.
Ça vient de tomber ou?
Ouais, on a appris la nouvelle le week-end dernier, coach. Tu l'as mis.
Ok.
Ancien arbitre international du Gabon et qui a notamment officié lors de grosses rencontres internationales avec la FIFA.
Ok. Alors, on va parler aussi de... Donc, on a parlé du Mali. Adama Traoré toujours déchiré entre l'Espagne et le Mali. Et donc, le Mali joue contre le Ghana le 9 octobre avant l'Iran et le 13 à Antalya, en Turquie. Autre nouvelle concernant toujours les matchs amicaux. Il y a que le Tchad a battu le Soudan, a été battu par le Soudan plutôt, mercredi à N'Djamena, lors de ce qui restera la première rencontre internationale disputée en Afrique après une pause de presque 10 mois.
Ouais.
Un match entre le Tchad et le Soudan, joué mercredi, il fut la première rencontre internationale. Score 3-2 pour le Soudan, une bonne manière pour les hommes d'Hubert Velude d'engranger de la confiance avant la double confrontation face au Ghana le mois de novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.
Ouais, mais je ne pense pas que le Tchad a pu rassembler ses joueurs à temps pour cette rencontre parce que en ce moment, c'est difficile de prendre des joueurs parce qu'ils ont des joueurs à l'extérieur aussi, non? Donc, je ne sais pas si Hubert Velud a le temps de rassembler ces joueurs.
Mmh. Un commentaire sur l'Algérie. On va finir sur l'Algérie, mes chers amis. Concernant donc l'Algérie qui finalement a eu ce match face au Nigeria. Il cherchait un match, hein, c'est le sélectionneur Djamel Belmadi qui recherchait un match vraiment consistant, adversaire consistant.
Ouais.
Et donc oui, il est.
Je pense que ça va être une rencontre intéressante, Coach Lamine, face au Nigeria de Garnet-Rohr. Ça va être une opposition de style importante, intéressante. Quand on sait que le Nigeria, sur les dernières sorties au niveau international, ils se sont très très bien comportés, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations, voire même au-dessus, sur des compétitions un peu plus élevées en niveau. Donc je pense que ça va être une opposition de style intéressante. C'est une bonne préparation pour la suite. Maintenant, voilà, chaque match amical, donc Lamine a son parfum. Là, ça sera en Autriche. C'est vrai que ça sera pas du côté du continent africain, mais bon, on sait qu'il y a une grande communauté donc algérienne du côté de l'Allemagne, du côté de Munich, du côté de notamment Stuttgart, avec beaucoup aussi de Nigérians, donc qui vont se rendre certainement du côté de l'Autriche pour aller voir ce match et supporter les joueurs, même si on sait que la limite, elle sera encore, il y aura encore des restrictions au niveau du public.
Alors, il nous reste 3 minutes. Juste, je vais poser la question au doyen Willy. Ce qu'il craignait est en train d'arriver. Le Nigeria devait rencontrer la Côte d'Ivoire en match amical, n'est-ce pas ? C'était en Autriche. Et finalement, ce match a été reporté ou n'aura pas lieu parce que tout simplement du côté d'Abidjan, vous connaissez la situation. Avec des problèmes internes, finalement, ce match-là. C'est pour ça que le Nigeria s'est tourné vers l'Algérie. Donc, ce qu'on craignait par rapport à ce qu'on disait toujours, la situation au niveau de la Côte d'Ivoire est toujours là.
Ouais, c'est toujours compliqué.
Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura des matchs amicaux ? Il n'y a pas de fédération, il n'y a rien. Et toujours, ils sont en attente de cette discussion avec la FIFA pour voir comment ça va se passer.
Oui, mais c'est très compliqué de ne pas... C'est ce qui arrive aux Comores aussi, parce que tu parles de comité de normalisation. Donc, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de fédération. Donc, pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a pas de fédération. Donc, c'est très compliqué de diriger quelque chose. Et si on n'a pas une locomotive, on n'a pas la tête.
D'ailleurs, coach, pour la suite, un mot toujours sur l'Algérie. Hein, donc, l'Algérie va affronter le Nigeria le 9 octobre. Et le deuxième match, ils l'ont dévoilé tout à l'heure, la Fédération algérienne, ce sera face au Mexique. Hein,
match,
du 13 octobre. Donc,
c'est intéressant.
Voilà, pour l'Algérie qui continue, hein, le champion d'Afrique qui continue dans ses matchs amicaux à essayer de se frotter à des adversaires relevés. On n'a pas pu avoir la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, remake de la dernière demi-finale. Et un adversaire sud-américain, le Mexique, enfin d'Amérique centrale, pardon, le Mexique. Donc, deux belles oppositions, encore une fois, pour l'Algérie qui va pouvoir essayer de se réunir et voir un peu où en sont leurs forces. Juste l'absence d'Atal, hein, le défenseur niçois qui s'était blessé la semaine dernière face au PSG, donc qui manquera un peu quand même à la sélection des champions d'Afrique.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Sur la radio africaine, bien sûr, Paris 107.5, Africa Radio, avec le doyen Willy Dorkono, avec Christian Chango, avec Hakim Djellouane. Messieurs, nous allons décortiquer, bien sûr, la Première Ligue, avec la jungle peut-être de Première Ligue. C'est parti, non ? Ok, c'est parti.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Messieurs, déjà, on va parler des résultats, les résultats de cette troisième journée. C'est parti avec les résultats. Christian Chamou ?
Les résultats, coach Fulham, donc troisième journée. Fulham a perdu face à Villa 3-0. Victoire de West Ham 4-0 face à Wolverhampton. City a perdu à domicile face à Leicester 5-2. Tottenham Newcastle 1-0. Sheffield United face à Leeds 1-0 pour Leeds. Burnley Southampton 1-0 pour Southampton. West Brom face à Chelsea 3-0. Crystal Palace Everton 2-1 pour Everton. Brighton United 3-2 pour Manchester United. C'est joué tout à l'heure. Fulham face à Aston Villa 3-0. Et j'ai un Et j'ai un œil sur Liverpool-Arsenal qui va commencer là dans quelques secondes à 21h avec plusieurs de nos Africains présents, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine d'Arsenal, Liverpool, du côté de Liverpool, bien entendu Sadio Mané, Mohamed Salah, et j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, le match Liverpool-Arsenal qui va jouer.
Ne nous donnez surtout pas les résultats.
Non.
Ou bien demandez-nous de fermer les oreilles, parce que sinon, nous, on voudra voir le match à la maison et on a envie d'avoir.
Je parlerai du match seulement s'il y a un but.
Ok, d'accord. Et des buts, il y en aura.
Alors, messieurs, au classement, Leicester, Everton, premier avec 9 points. Arsenal, deuxième avec 6 points. Liverpool également avec 6 points. City, 3 points et 12e. United 3 points et 13e, et en bas du classement Burnley, Sheffield et Fulham.
Alors messieurs, on va parler un peu de certains clubs doyens qui nous intéressent, savoir qu'est-ce qui se passe. On va commencer par le Manchester United. D'abord, ils ont eu une défaite face à Crystal Palace, dont un doublé lors de la deuxième journée, Zaha lors de la deuxième journée. Et on a vu qu'il y a quand même au niveau de Manchester United, une défense toujours friable. Pourtant, ils ont fait un recrutement d'environ 8 défenseurs centraux. Et face à Brighton aussi, c'est toujours la même situation, puisque à la mi-temps, il y avait 3-0, il me semble. Et que dire d'une équipe qui avait enchaîné 9 matchs, n'oubliez pas, ils avaient enchaîné 9 matchs avant le restart, avant qu'on ne recommence, c'était lors après le Covid. Est-ce que réellement on se pose des questions par rapport à Manchester United qui ne compte que sur ses individualités, on peut dire.
Oui, mais les talents sont là, mais il ne faut pas incriminer la défense. C'est toute l'équipe qui n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat et ils ne combattent pas ensemble. Mmh. Moi, j'ai vu leur match, c'est d'une tristesse incroyable. Mmh. Regardez, jouer contre Brighton, par exemple. Brighton a eu 19 tirs, Manchester a eu 7 tirs. Manchester avec les joueurs qu'ils ont. Mm-hmm. Et les tirs cadrés, Brighton a 5, Manchester a 3. Et les positions de balle, Brighton a 54 contre 46 pour Manchester. Mm. Donc le problème n'est pas au niveau de la défense, c'est toute l'équipe qui est amorphe. Je ne sais pas ce qui se passe à Manchester. Bientôt on va dégager l'entraîneur, ce n'est pas sa faute. Quand on voit jouer les joueurs, c'est triste. Et ce n'est pas de leur niveau.
Alors, Christian, vous avez regardé le match, vous ? Quel est l'avis que vous donnez ?
Oui, sur Manchester, mais ils sont en reconstruction. On l'a vu, même s'il y avait du mieux sur la saison calendaire, on va dire, à partir de début 2020, après avec le restart, il y a eu quand même du mieux. Mais c'est vrai que du côté de Manchester, ils sont encore en train de se chercher. On sait que ils veulent encore recruter du côté de l'Allemagne, peut-être Jadon Sancho. Au niveau de la défense, Eric Bailly lui revient de blessure, mais c'est vrai qu'au niveau de l'axe central, le coach...
Ils en ont 8
Oui, c'est
ils
ça.
En ont 8. Ils ont fait combien de millions d'investissements?
Arsenal,
c'est 600 millions,
Manchester, sur ces dernières années, oui, ils ont dépensé énormément d'argent. Mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est étonnant puisqu'il y a quand même du talent dans cette équipe et vraiment il y avait eu du mieux sur les derniers mois, je trouve, du côté de Manchester. Ils ont bien fini l'année, t'en as parlé, coach, tout à fait, avec le restart, avec l'Europa League. Manchester est bien reparti, mais là ils ont l'air de retomber un peu dans les travers et Solskjaer pour l'instant n'est pas menacé. Il avait été conforté sur la belle fin de saison, mais il faut qu'il fasse attention quand même et il faut surtout qu'il resserre bien la vis puisqu'il y a quand même beaucoup de jeunes du côté de Manchester et des fois, ça peut partir dans tous les sens.
Alors, il y a quand même un coup de gueule de notre doyen Willy Del Cono par rapport à ce match-là, puisque finalement, je crois que c'est Manchester United qui a gagné, 3-2, il me semble.
C'est ça, exact.
Et une victoire heureuse à la fin du match, puisque après que l'arbitre ait sifflé la fin du match, il est revenu sur ses pas pour accorder un penalty qui a permis à Manchester United de l'emporter, alors que vraiment... Je veux dire qu'ils étaient menés et que vraiment, quand on voit ce qui s'est passé, c'est finalement, on peut dire que c'est injuste.
Alors, c'est injuste pourquoi ? Parce que le coup de gueule est dû à la VAR, et votre VAR, parce que tout le début...
C'est pas ma VAR.
Moi, j'étais contre ce truc-là, cette interférence entre la science ou bien la technique et le comportement humain, parce que ce truc déshumanise le football. Imagine un club comme Brighton qui a dominé le match sur tous les plans.
Ah, ils les ont dominés. Hein.
sur tous les plans qui perd son match simplement parce que quelqu'un veut sauter. Est-ce que vous avez vu un être humain sauter sans écarter le bras? Ça n'existe pas.
Mais doit,
on ne peut pas sauter.
Mais c'est le règlement. Mais
le règlement n'interdit pas des trucs morphologiques. Soyons sérieux, quel règlement? Mais c'est la morphologie. On ne peut pas sauter sans écarter les bras. Ça n'existe pas. Donc on ne va pas faire un règlement pour dire. Parce que dans le football que moi je connais, il y a ce qu'on appelle il y a des fautes intentionnelles et les fautes involontaires.
Donc il aurait fallu laisser ce match-là finir sur ce score.
Mais ils ont perdu le match. Ça, tu vois, quand on regarde le match, ils ont perdu le match. Mmh.
C'est vrai que ce qui s'est passé quand même, bon, on a parlé du match, hein, Brighton, clairement, ils méritaient la victoire. Ils étaient au-dessus, ils ont fait un bon début de saison et ils étaient au-dessus de Manchester et c'est vrai que c'était compliqué. Après, sur cette action, cette fameuse main, alors que le match avait été sifflé, la fin du match avait été sifflé, là, ça fait partie quand même des questions où on peut se poser. Et quelle part prend la vidéo, du coup, puisque là, ça, c'est un exemple concret. Est-ce que une fois que le match est fini, on arrête? Est-ce qu'on remonte une faute une minute avant? Là, malheureusement, je suis.
C'est le règlement. C'est le règlement.
C'est le règlement et donc il faut l'appliquer. Mmh. Mais il faut peut-être un peu plus l'humaniser et vraiment adapter à des cas comme ça, puisque malheureusement, même si c'est le règlement, le match est fini.
Non, le match il est fini, mais le règlement permet à l'arbitre de revenir. Pour finir la décision.
Oui, mais moi, je parle des fautes involontaires.
Mais on ne peut pas. Il y a tellement d'enjeux par rapport à une situation comme ça. Ouais,
tu reviens à l'enjeu, c'est-à-dire mais l'enjeu économique.
Mais bien sûr, c'est l'enjeu économique c'est qui fait partie.
Comme moi, je ne suis pas banquier, je ne maîtrise pas ce côté du football.
Il faudra quand même mettre en place ce truc-là et comprendre que, quelquefois, il est difficile quand il y a pénalty de dire qu'il n'y a pas pénalty parce que j'ai pitié d'eux, parce qu'ils allaient gagner et qu'ils n'ont pas gagné et que ceci et que cela. Oh. C'est comme ça, c'est le business. C'est comme ça.
Monsieur, ouais, je te comprends.
On n'est plus en 1950.
Toi, tu parles du business, moi, je parle du foot.
Hakim, peut-être un commentaire à ce niveau-là?
Non, rien à ajouter, à part que, comme l'a souligné tout à l'heure Christian, quoi, ce sont des choses qui sont intéressantes sur lesquelles il faut se pencher. Maintenant, le championnat, c'est-à-dire la première ligue, le coach Lamine, ça reste vraiment quelque chose de. Voilà, on aura toujours c'est-à-dire au-delà de l'aspect arbitrage, etc., on aura toujours cet aspect en fait magique qui nous permettra de suivre des rencontres. J'aurais aimé qu'on parle de Man City et Leicester.
Allons-y, commençons par Chelsea par exemple. Ouais. Alors Chelsea, c'est l'équipe qui a totalement changé avec un recrutement en VIP,
ouais.
Des recrues jeunes avec Ziyech, Mendy, bon, mais avec les jeunes, on le sait toujours, il y a des inconvénients. Parce que la mayonnaise peut ne pas prendre tout de suite. Alors, 686 matchs pour la première fois, le coach a encaissé 5 buts.
Oui.
5 buts. Alors, donc, contre je crois que c'était Leicester. Ah,
on parle de City, là, du coup.
Ouais, non, on parle de Chelsea.
Chelsea, ils ont fait 3-3 hein, face à West Brom.
Oui, voilà. Oui, autant pour moi. Donc, on parle de Chelsea, c'est ça.
Ouais, donc là, tu parles de jeunesse. La jeunesse n'arrive pas toujours, parce qu'on sait très bien dans le football, il faut un peu de vieux pour équilibrer les rencontres. C'est-à-dire que les vieux, ils sont un peu vicieux, ils ont des vices pour essayer de garder le ballon, et quand on mène ou bien quand on est mené, de poser la balle. Donc la jeunesse, ils sont en train de courir dans tous les sens et on a vu ce que ça donne. Ça ne paye pas toujours cash. Ils ont vraiment la pêche. Ils sont jeunes, mais le problème qui se pose, c'est qu'il faut maîtriser le match. Donc il faut un peu de vieux pour équilibrer les matchs. On a vu au niveau de beaucoup d'équipes, hein, ça court dans tous les sens et après ça perd des matchs et vers la fin ça marche pas.
C'est bien là, si je ne me trompe, qu'il y a eu à la mi-temps 3-0, il me semble.
Oui, exactement, c'est ça. Chelsea perd des 3-0 avec Thiago Silva qui a eu un peu de mal pour son premier match.
D'ailleurs, comment vous avez trouvé la prestation de Thiago Silva? Parce qu'on est en train de le tuer sur les réseaux sociaux.
Oui, il a fait une erreur.
Il a fait une erreur, mais honnêtement, pour Thiago Silva, je m'en fais pas. C'est son premier vrai match, entre guillemets. Il faut connaître les coéquipiers, tout le travail de l'ombre. Mais je m'en fais pas pour lui. Et ça fait partie des bonnes recrues de Chelsea, tu l'as dit, coach. Hein. Il y a une équipe quand même jeune, un recrutement jeune. Et ils ont pris quand même des tauliers de très haute qualité avec une grande expérience, et je m'en fais vraiment pas pour Thiago Silva. On l'a vu sur les derniers mois là avec Paris, comment il a fini, dans quel état d'esprit il va être. Et Frank Lampard l'a justement dit, hein, c'est son vrai premier match. L'anglais, il maîtrise encore moyennement, donc ça va venir. Et surtout, il faut juste le laisser un peu s'habituer au rythme de la première ligue.
Mais le rythme, justement, vous en parlez, vous, Christian Chango, est-ce que ce n'est pas trop rapide? Ce n'est pas trop rapide, parce que tout ce qu'on a reproché toujours à Thiago Silva, c'est surtout sa lenteur et qui recule. Et que là-dessus, vous avez vu comment ça va à 100 à l'heure au niveau du championnat anglais.
Oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai que là, le rythme va est plus élevé, notamment que le championnat de France, mais il a encore des qualités physiques et surtout, il a des qualités techniques qui vont pouvoir le permettre de compenser. Après, des fois, c'est vrai que s'il tombe sur un jeune loup de 20 ans qui court comme Aubameyang le 100 mètres en 11 secondes, oui, ça va être plus dur, mais il pourra compenser par ses qualités de lecture. Le foot aussi, c'est pas que de la vitesse, hein, y a l'anticipation, mais le rythme, on pourra se poser la question après quelques mois.
Alors justement, il y a un garçon qui a été recruté par Chelsea. Ah, il s'agit du gardien de but du Sénégal, bien sûr. Et le portrait nous est réalisé. On va peut-être l'écouter avant de revenir avec le portrait qui a été dressé par notre ami Hakim Djellouat.
J'ai décidé de rejoindre Chelsea parce que c'est un très grand club, prestigieux, avec une belle histoire récente. Et l'intérêt du club qui a été très persistant m'a conforté dans l'idée que tout le monde me voulait vraiment ici et que c'était le meilleur endroit pour continuer ma progression. J'aime tout, malheureusement on joue à huis clos, mais l'ambiance dans les stades, il y a une vraie ferveur dans tous les clubs. Quand vous arrivez à intégrer un club comme Chelsea, c'est tous les ans que vous pouvez aspirer à avoir des grandes ambitions. Donc c'est plaisant de faire partie de ce projet. Le plus grand défi, c'est de m'adapter à ce championnat, parce qu'il est différent du championnat français, de continuer ma progression, que ce soit en club ou en sélection, et gagner, parce que quand on joue dans un club comme ça, c'est l'objectif, c'est de gagner.
Voilà, vous avez entendu donc Monsieur Mendy, bien sûr, qui est le nouveau gardien de Chelsea. Alors, Hakim, ouais. Un portrait de qui il est réellement, ce garçon?
Oui, qui est-il vraiment? Alors, Edouard Mendy, coach Lamine, il est né du côté de Montivilliers, en Seine-Maritime, pas très loin du Havre. C'est un footballeur qui possède la nationalité sénégalaise, puisqu'il évolue depuis 2018 avec l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, mais il possède également la nationalité française de par sa naissance du côté de Montivilliers. Donc actuellement, il a été, comme on l'a souligné la semaine dernière et cette semaine, il a été recruté du côté de Chelsea pour 5 saisons. Il est âgé de 28 ans, coach Lamine. C'est un très grand gardien, il faut le rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices. C'est un gardien qui mesure 1m97, donc il est droitier. Donc il a grandi du côté de la Normandie, hein. Alors il faut le savoir, de par son papa, il est d'origine bissau-guinéenne et sénégalaise de par la maman. C'est important de le souligner pour nos chers auditeurs et auditrices. Il a commencé le football, coach Lamine, il a pris sa première licence à l'âge de 7 ans, du côté du Havre. Il a grandi en fait du côté du Havre, et il a évolué footballistiquement dans la même école de foot où a évolué Vicage Dorasso. Entre 1999 et 2005, il a évolué du côté du Havre Crioville. Et ensuite, il a rejoint le CS, le club sportif municipal du Havre, en rejoignant bien sûr pendant toutes ces années-là la division d'honneur. Ensuite, il rejoint Cherbourg en 2011. Il a évolué du côté de la nationale, en championnat national. Il a progressé petit à petit, coach Lamine, et après une saison effectivement avec Cherbourg où il a évolué pendant 30 matchs. Il a rejoint l'Olympique de Marseille en 2015. Donc il a effectué une saison. Ensuite, il est passé par le Stade de Reims. Et après, on a connu sa trajectoire du côté du stade de Reims. Il a fait un petit peu les yeux doux du côté du stade Rennais, du côté de la Bretagne, là où il a eu effectivement sa chance d'avoir beaucoup de responsabilités, notamment en Ligue 1 ou en Coupe de la Ligue. Et ensuite, il n'y a pas si longtemps, coach Lamine, il a signé là son contrat de 5 saisons pour rejoindre le club de Chelsea de Frank Lampard.
Environ à 22 millions. Le transfert avec 6 millions de bonus, c'est un garçon.
Oui, c'est ça, exact.
Voilà. Et donc, là, il est remplacé par un autre gardien sénégalais du côté de Rennes. Hein.
Exact, c'est ça qui évolue du côté de la France.
Faut dire que quand même que le Sénégal sort de super gardiens.
Ouais, mais on dit le Sénégal tout, mais le football africain, moi je vous dis ça, que le football africain a toujours soutenu et fait évoluer le football européen vers le haut.
Ouais,
durant l'histoire.
Oui, mais d'accord, là on parle du Sénégal.
Le Sénégal fait partie de l'Afrique, c'est pas la Norvège, non, mais... le Sénégal.
faut pas oublier de dire également que tu as mis
qu'il a connu une période de chômage. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté ça.
Oui, mais c'est un gardien qui est. C'est un vrai sportif.
Parce il
a toujours travaillé. Et quelqu'un qui a refusé des clubs juste pour rester à la maison, chez lui, et courir pour revenir au bon niveau.
Alors, donc vous pensez.
C'est exceptionnel. Ça.
Alors, Christian Chango, Doyen Willy. Hakim Diallowat, vous pensez que c'est un garçon qui va réussir avec Chelsea? Parce que si Chelsea en a pris trois aujourd'hui, là, je pense qu'ils ont eu vraiment de la chance parce qu'ils sont revenus à trois buts partout. Mais quand même, je peux dire que. Est-ce que vous pensez que ce sera le gardien titulaire de Chelsea?
Il ne va pas réussir par rapport aux erreurs des autres. Il va réussir simplement par rapport à son travail et sa compétence.
Après, coach, la chance qu'il a, c'est que l'entraîneur, donc Frank Lampard, le voulait. On sait que Chelsea avait recruté il y a 2 ans Kepa, puisque je vais égorger son nom sinon. Donc, il avait été recruté 80 millions d'euros à l'époque du côté de l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid le voulait, il avait 22 ou 23 ans, c'est un jeune gardien. Ça a bien fonctionné pour lui au début. Après, il y a eu une première rupture avec l'ancien coach Maurizio Sarri, qui ne le faisait plus jouer, qui faisait jouer le remplaçant Caballero, le vieux de 37 ans. Et Frank Lampard, quand il a pris en charge Chelsea, pareil, lui aussi, il a eu ce problème avec le gardien. Il disait qu'il ne lui convenait pas. C'était sûrement un très bon gardien, mais il ne lui convenait pas. Il l'a très peu, voire pas du tout fait jouer. Et c'était une de ses priorités du recrutement de cette année. Il l'avait dit, il nous faudra absolument un gardien. Donc là, le choix a été fait sur Edouard Mendy, à qui on souhaite bonne chance et vraiment de réussir. Mais je pense qu'il a toutes ses chances. Le coach le voulait. Il a été aussi rassuré par l'entraîneur des gardiens, l'ancien coach de Chelsea, Petr Cech, l'ancien gardien de Chelsea, qui était aussi ancien gardien de Rennes.
De Rennes, exact.
Donc il y a une filiation un peu, on peut dire, entre les deux. Et il va pouvoir jouer sa chance. Et encore une fois, après, le football, oui, il a dit, hein, c'est le terrain, c'est le meilleur qui joue. Donc, il y a à lui de prouver tout ce qu'il a montré avec le Sénégal et du côté de la France, où il faisait partie des meilleurs gardiens.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que un Africain arrive, un autre Africain risque de partir du côté de la Juventus. Il me semble, c'est bien N'Golo Kanté, c'est la Juventus. Hein.
N'Golo, il est du côté de Chelsea, lui, justement, Chelsea. Encore. Oui, les Chelsea pour la Juve, peut-être, oui, c'est vrai que ça fait partie des...
Parce qu'on essaie, la Juve essaie de dégraisser, justement.
Chelsea essaie de dégraisser aussi.
Et Chelsea, pardon.
Chelsea essaie de dégraisser, et on sait que le plus haut salaire du club, c'est N'Golo Kanté, qui l'a justement mérité. Hein, et c'est pas lui qui a mené les négociations, lui a donné, il a accepté. Hein, mais il le mérite. Et c'est vrai qu'il fait partie des joueurs qui ont la valeur marchande la plus élevée. Et c'est un joueur de qualité, c'est son ancien coach hein, qu'il veut, notamment du côté de l'Inter, Antonio Conte. Mais Frank Lampard l'a dit aussi justement dans une interview chez nos confrères anglais, même si on a besoin de dégraisser et qu'on reçoit des offres pour N'Golo Kanté, moi en tout cas en tant qu'entraîneur, je ferai tout pour pas qu'il parte, parce que c'est bien d'avoir des attaquants, des gardiens, des défenseurs, mais quand vous avez un joueur comme lui dans votre équipe, vous faites tout pour le garder. Voilà ce que disait Lampard à propos de Kanté. Après, est-ce que l'aspect financier, cher à Willy, va prendre le dessus, ou alors le football va parler, ça on verra.
Et si c'était le football, il faut qu'il parte de Chelsea pour voir ailleurs. Moi, je l'ai toujours souhaité par rapport au... parce que il joue un rôle qu'il avait joué au niveau de la France. Il joue le même rôle au niveau de Chelsea. Or, ce joueur a besoin de d'avoir un rôle plus intéressant que ce qu'il fait maintenant, de courir dans tous les sens. Il est plus intelligent que ce qu'on lui fait faire.
En tout cas, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, c'est bon, je te laisse finir.
Ben, on va faire un coucou à Adama qui est arrivé quand même. Avant qu'il ne parle de bien sûr.
Non, tu sais très bien que les meilleurs se laissent désirer.
Désirer, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est ça. S'il continue à se faire désirer, il va être viré, oui. En tout cas, juste pour lui faire un coucou, c'est que son joueur fétiche, son joueur qu'il adore arrive en Angleterre. Il ne marquait pas ici. Il arrive en Angleterre. Il marque le Bertrand Traoré.
Mais c'est pour ça que je dis que les joueurs, sur leur valeur intrinsèque, je sais ce qu'ils valent. Moi, je l'ai toujours dit. Il faut qu'il quitte la France pour aller voir ailleurs.
Adama, vous pensez qu'il va continuer à marquer? Bonsoir, El Meron.
Bonsoir, Coach Lamine. Bonsoir, Dayo Willy. Bonsoir. Guilouard. Bonsoir, Christian.
Ne vous inquiétez pas. Bonsoir
à tous ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, laissez-moi une trentaine de secondes pour rendre hommage à Mendy, qui est parti de très très loin,
oui,
qui a cru en lui, qui a travaillé, qui a été modeste pour être là où il est aujourd'hui. Je pense que cela doit servir aussi de leçon à beaucoup de joueurs africains qui sont souvent trop pressés, qui veulent être au premier niveau dès les premières années. Ce monsieur, je lui dis respect et je lui souhaite une bonne chance, une bonne persévérance du côté de Chelsea.
D'accord.
Voilà. D'accord. Okay. C'est l'Afrique qui triomphe.
Maintenant, parlons de votre protégé.
Oui, Bertrand Traoré, le doyen Willy, vous saviez, quand il devrait partir, c'était pas encore officiellement annoncé, mais je pense que sur le plateau, moi, je vous avais déjà vendu la mèche, hein, que c'était fait. Aujourd'hui, Bertrand n'a pas eu cette chance-là de s'exprimer comme il sait toujours le faire du côté de l'Olympique de Lyon. Et il a été vraiment compressé et bousculé. Et c'est un garçon très poli, très doux et très calme. Donc plus tu lui demandes beaucoup de choses, tu le bouscules, à un moment donné, il n'avance pas. Mais c'est la technique qui... C'est pas sa technique qui ne va pas avancer, mais laissez-lui le temps d'évoluer. Et Doyen Willy était d'accord avec moi qu'il fallait qu'il parte pour voir ailleurs. Aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, ça s'est joué sur une histoire de moins de 24 heures. Il y avait trois grands clubs européens qui étaient derrière lui, du côté de la meilleure Liga del Mundo. Il y avait l'Atlético de Madrid et le Real de Betis. Ben, il est parti à Aston Villa. Moi, je suis très content qu'aujourd'hui, les Lyonnais du côté de la France vont voir un Bertrand qui a été critiqué sans arrêt, qui a été attaqué à tout moment.
Il n'a jamais fait une sortie de presse.
Ouais,
mais
il n'a jamais répondu à quelqu'un.
Moi, je lui souhaite également bon vent
du côté d'Aston Villa.
Bon, mais cela dit,
il n'a pas été bon, mais ils l'ont pris où? Ils l'ont vu comment à l'AIS. C'est ça, il faut avoir les moyens de savoir, de reconnaître le talent d'un joueur. Si tu ne sais pas, mais va voir ailleurs.
Il n'a été bon que face à Marseille.
Oui, mais c'est ça, oui.
Après, pour Bertrand, c'est un juste retour aussi, hein, puisqu'on sait qu'il est passé par Chelsea, même s'il n'a pas forcément eu sa chance. Il remet un pied en Première Ligue, donc ce sera à lui de montrer ce qu'il nous a montré avec la sélection, avec le PSV, en de rares occasions, mais quand même sur certains matchs avec Lyon, il aura brillé, mais ça aurait été plus compliqué sur la fin, donc c'est un jeune joueur, il faut vraiment lui souhaiter toute la réussite possible du côté de l'Angleterre et qu'il puisse s'épanouir surtout.
Ok, alors rapidement, il nous reste 2 minutes, alors je voudrais te les consacrer, Adama, pour que tu nous parles de ce match entre Burkina Faso et RD Congo au match amical. Rapidement, il nous reste 2 minutes.
Oui, ces deux nations qui se connaissent. Hein. On a vu vers la fin de l'année dernière, les deux nations se sont rencontrées du côté de Marbella à Malaga pour un match amical. Ils se sont séparés sur un score vierge de 0-0. Donc, je vais vous dire que ça va être un très bon match.
Très bon match, oui. Vous êtes sûr?
Ouais.
Oui. Fimbou, hein, vous allez goûter au Fimbou, Adama. Hein.
Ça va être un très bon match.
D'accord, on revient pour la Liga.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Ok, alors on va continuer bien sûr avec le Rouen, Willy Dorkono, Hakim Djelloua et le Christian Chango et bien sûr notre Adama Sourabié national. On va finir rapidement sur l'Angleterre avec le match entre Manchester City et, je regarde mes notes,
Leicester.
Leicester, bien sûr.
Exact, 5 buts à 2 pour Leicester, hein, qui est parti battre City à domicile. On rappelle aussi, ce match-là était le 100e match de Riyad Mahrez en Première Ligue. Hein, Riyad Mahrez qui a été champion avec Leicester, son ancien club, avec City, qui a été bien sûr élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre.
Mais, doyen, votre équipe, Manchester City, elle a bu l'eau jusqu'à la...
Oui, mais mon équipe avec un coach que j'ai jamais aimé.
Non, on ne peut pas dire ça, Kamer Doyen, non.
Il n'a pas dit qu'il était mauvais, il a dit qu'il ne l'a jamais aimé.
Je ne l'ai jamais caché, ça. Si vous me suivez ici, je n'ai jamais aimé qu'on dise d'un coach qu'il est le meilleur du monde, ce n'est pas lui qui joue.
Mais il a été champion en Espagne, il a été champion en Allemagne, il a été champion en Angleterre.
Il est sur le terrain, il était sur le terrain.
Mais il a coaché.
Oui, mais qu'il prenne ma grand-mère, qu'il soit champion en Allemagne, on verra. Donc, le problème, ce n'est pas ça. C'est que d'avoir des bons joueurs à un mois donné, c'est ça qui fait de ça. Ce sont les grands joueurs qui font de bons coachs.
Mais non, il faut gérer aussi les grands joueurs.
Il a essayé de faire ses passes inutiles en Allemagne, c'est ça qui a valu qu'il soit viré en Allemagne, non ? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti dans l'Allemagne, parce que les Allemands ne tolèrent pas le fait de faire des passes et 90% de passes et possessions. On s'en fout des possessions.
Mais la preuve, le Bayern de Munich, quand même, c'est avec des passes qui sont champions d'Europe aujourd'hui, non ?
Mais ce n'est pas des passes inutiles. Je parle de passes inutiles.
C'est quoi une passe inutile ?
Oui, mais c'est ça qu'ils font au Barça, là. Entre-temps, là, ce Barça qui a pris 8-2 l'autre fois. C'est des passes inutiles. Parce qu'il faut aller droit au but. Comme on dit dans mon club et de cœur.
Non, il y a des gars qui...
Il faut aller droit au but, comme on dit dans le club de cœur, dans mon club de cœur.
Doyen Willy, mais le football, c'est le spectacle également. Et il faut pas...
Le spectacle inutile.
Il faut le spectacle, il faut la beauté du jeu.
La beauté du jeu, sans calcul.
1-2-3, le but. 1-2-3, le but.
Mais en tout cas, ils ont pris 5.
Allez poser la question à son maître. Et Bielsa.
Je m'arrête 2 secondes, 30 minutes de jeu, un but partout entre Liverpool et Arsenal, but d'Arsenal par Lacazette sur une passe décisive d'Aubameyang, et bien entendu but de Liverpool par Sadio Mané, un but partout entre Liverpool et Arsenal.
Il est de quel pays, Sadio Mané ?
Ah, je sais pas, je vous laisse le dire.
Celui qui trouve de quel pays il est, ben je lui paye le voyage pour le Sénégal. Donc, messieurs, donc Manchester City, c'est quand même incroyable. C'est la première fois, quand même, depuis combien de matchs, là ? Au moins 600, je ne sais pas combien de matchs ?
Oui, qu'ils ont pris, ils ont pris une déculottée.
Qu'ils n'avaient jamais pris 5 buts, notre ami...
Guardiola.
Mm-hmm. Pep Guardiola, je ne sais pas, il est en train de faire exploser le budget de Manchester City. Il ne fait qu'acheter, mais bon, je trouve que Guardiola doit être comme un Mourinho, petit à petit, à la porte de sortie, quoi. Parce que aujourd'hui, avec le budget qu'on met à disposition de ses entraîneurs, je pense que n'importe qui connaît le football, en ayant ce budget, en ayant cet effectif, peut quand même ne pas être ridicule sur le plan. Dans le championnat où son club va évoluer. Mm-hmm. Je sais pas si,
oui, on est d'accord. D'accord avec moi. On est d'accord.
Après, sur cette rencontre, bon, il y a 5-2. Riyad Mahrez ouvre la marque avec un très beau but, hein, face à son ancien club au bout de 5 minutes de jeu. Pendant 20 minutes, Manchester City domine. S'il y a 4-0, c'est tout à fait légitime. Et après, c'est vrai que il y a eu, j'ai regardé le match et je l'ai re-regardé parce que je me disais j'ai loupé quelque chose, mais à partir de la 22-23e minute, ça a été compliqué pour City. Il commence à rater des passes et puis surtout aussi Leicester en face a été bon, puisqu'on dit que City a déjoué, mais il faut préciser aussi que Leicester a été bon.
Avec Vardy, hein,
c'est deux joueurs, Vardy qui met un triplé, deux pénaltys, c'est lui qui obtient les deux fautes et qui marque. et aussi un ancien pensionnaire du championnat de France, Nampalis Mendy, qui a régné au milieu de terrain avec Tillmans du côté de Leicester. Et les deux, je les ai trouvés au-dessus de la mêlée.
Mais c'est, permis... c'est celui qui jouait à Nice,
à Monaco, ouais. Tout à fait.
Celui qu'on ne voulait pas du tout transférer à un moment donné.
Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Qui s'impose à Leicester. Et puis, il est avec le coach Brendan Rodgers. Et il est au milieu, il est très bien. Mais vraiment, autant City a déjoué, mais autant surtout Leicester est venu leur poser des problèmes.
Mm-hmm. Hakim, un mot par rapport à Manchester City. Vous n'avez vu qu'un seul joueur sur ce match-là. C'était le capitaine de l'équipe d'Algérie. Le capitaine de l'équipe d'Algérie.
Et quel but il a mis. Hein.
Ouais. Oui, et du pied droit. Hein.
Pied droit.
Ouais, du pied droit. Après, c'est vrai qu'on retient ce très bon but de Riyad Mahrez. Mais la physionomie du match, on a l'impression que, c'est-à-dire ce but a été un petit peu un électrochoc pour l'équipe adverse, pour Leicester. Et ils se sont, Leicester s'est réveillé, notamment avec un collectif qui a joué bien en bloc défense. De l'autre côté, coach Lamine, Manchester City ont eu beaucoup de lacunes, je trouve, sur ce match défensivement. Il y a eu beaucoup de petites boulettes, notamment derrière. Mais faut surtout saluer la belle performance et la belle remontée et le répondant de Leicester dans ce match. Et même si Riyad Mahrez a inscrit un très beau but effectivement dans cette première mi-temps, je trouve que Leicester a eu du répondant et a montré qu'il pouvait jouer effectivement les premiers rôles dans ce championnat anglais dès le début de saison. Mmh. Et taper 5-2 Manchester City, je trouve que c'est classe de la part de Leicester, d'autant plus que Riyad Mahrez, coach Lamine, faisait partie de cet effectif de Leicester il y a quelques années, et où il avait remporté notamment le titre de meilleur joueur de Première Ligue.
Ok.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Messieurs, ça y est, il est là. Bon, on lui a demandé de nous parler un peu de son Alain Traoré ou bien Bertrand Traoré national. Et on ne pouvait pas ne pas lui donner la parole par rapport à Bertrand Traoré. Il est tellement heureux quand il s'agit de Bertrand Traoré. Il le suit depuis que Bertrand Traoré est poussin.
Oui, mais même moi, je suis heureux pour lui.
Oui, mais c'est une histoire qui date depuis 10 ans, parce que Bertrand devrait venir en Espagne lors de l'arrivée de jeunes comme Eric Bailly. Mmh. Ils ont tous participé au même tournoi de recrutement et d'un certain Levi Madinda. Donc Bertrand n'a pas eu la chance à cette époque, mais voilà, de faire partie du contingent des jeunes qui devraient arriver du côté de l'Espagne. Mais moi, je me suis dit que les recruteurs qui étaient sur place, ils se sont beaucoup trompés sur le jeune. Mmh. Et ben, 2 ans après, il remportait un premier trophée pour le Burkina Faso en Coupe d'Afrique cadette, je me rappelle plus de l'année. Donc voilà, et j'ai suivi ce garçon depuis plus de 10 ans, et je sais ce qu'il vaut, et c'est un garçon qui a encore une marge de progression. Si jamais il arrive à se sentir bien dans un club, ben voilà, je vous donne rendez-vous en fin de saison. Ce sera plus le même Bertrand qu'on a connu du côté des Lyonnais.
Adama Sourabié pour le Burkina Faso et Hakim Diallowat pour l'Algérie, même combat.
Ouais, mais.
Mais moi, quand moi aussi, je vais m'y mettre.
On n'en a pas plusieurs comme le Sénégal, mais bon, ceux qu'on a, ils arrivent quand même à faire la fierté de différentes nations. Donc
le défenseur, le capitaine de Getafe, par exemple. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Espagne.
Voilà. Ouais, parce qu'il est togolais.
Dans une équipe de la Liga espagnole, la première fois que
il faut en parler.
Je vois ça.
Ouais. Mais voilà. Christian Chango aussi peut faire la publicité pour son joueur qui joue en Chine.
Mais c'est pas la pub.
Ah, les gars, on parle pas. Tellement de joueurs. Il y a tellement de joueurs, les gars. On va pas parler du Congo. Parlons de l'Espagne plutôt.
Voilà.
Messieurs, alors
l'Espagne, c'est vrai que on a abordé notre troisième journée.
Alors troisième journée. On va rapidement parler des résultats et des classements.
Ok, je donne les résultats. Donc, Barcelone-Villarreal, 4 buts à 0 pour Barcelone. Cadiz-Séville, 3 buts à 1 pour Séville. Valladolid-Vigo, 1 but partout. Atlético Madrid-Bilbao, 6 buts à 1. Notamment Valence-Huesca, 1 but partout. Alavés-Retafe, 0-0. Et je n'ai pas les autres scores devant moi. Désolé, je vous les donnais comme ça. Donc voilà à peu près pour les résultats. J'ai oublié peut-être aussi le Real Madrid.
Bétis.
Voilà, 3 buts à 2. Voilà, 3 buts à 2 pour le Real. Et la Sociedad, pardon, qui a battu Elche, 3 buts à 0.
Alors, Adama, le Real a été à la peine pour battre le Real de Bétis, hein, quand même.
Ben, si vous voyez encore la polémique sur la VAR, selon les uns et les autres, qui avantage toujours le Real, je peux vous dire que sans la VAR, le Real allait repartir bredouille à la maison. Donc on ne retrouve pas toujours la même équipe du Real qu'on a connue par le passé, qui a beaucoup de difficultés cette saison à retrouver son niveau. Mais comme c'est un début, on s'est dit que le Real reviendra à son meilleur niveau, parce que c'est des grands clubs, c'est des qui regorgent des joueurs qui sont pleins d'expérience. Donc la Covid a beaucoup aidé le Real après le retour, la reprise des différentes compétitions footballistiques, mais je pense que le Real s'est un peu endormi. Donc le Real a beaucoup de difficultés par rapport à cette Liga. Ses prestations ne sont pas au niveau de cette équipe.
Mais on a vu quand même un Benzema qui n'est pas mal du tout, qui prouve quand même par rapport à ses actions.
Il est dans la continuité. Hein.
Il est dans la continuité.
Ouais, toujours, hein, comme toujours. Donc lui, il est là. Dès le départ de Ronaldo, on a vu qu'il est en place. Donc lui, on n'a pas grand-chose à lui reprocher.
Mais on a vu d'autres joueurs comme Fekir, comme Aïssa Mendy, pour faire plaisir à notre ami Hakim, bien sûr, Aïssa Mendy, Fekir, des joueurs algériens qui ne seront peut-être pas à l'équipe d'Algérie. Aïssa Mendy, si, il y est.
Oui, il y est, il y est, le brassard.
Ouais, ouais. Et donc, ce sont des joueurs qui sont en forme actuellement.
Oui, personnellement, ça fait la fierté du continent africain, même si certains ont la double casquette, qui, comme Fekir. Aujourd'hui, je pense que Fekir aussi a été un peu maltraité vers sa fin au niveau de la Ligue 1 française. Mais aujourd'hui, Fekir, c'est un joueur qui s'est imposé dans cette Liga, qui a pris le rythme et qui s'exprime très bien et aussi. Qui est tellement content de la ville de Séville avec une autre mentalité. Voilà. Et donc, du côté de Séville, les Africains réussissent plus du côté de Séville. Quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique blanche, l'Afrique du Maghreb comme l'Afrique noire. C'est les Africains qui arrivent du côté de Séville, que ce soit du côté de Bétis ou du FC Séville, ils ont 80% de réussite. Je vais vous amener un peu dans l'histoire, Doyen Willy. Vous vous rappelez de l'international, de l'ex-international nigérien? L'homme au chapeau. Qui a joué au Bétis.
C'est Yakini.
Finidi.
Ah, Yakini aussi a joué au Bétis.
Voilà.
Yakini aussi.
Jean Finidi, Yakini n'a pas joué du côté de Séville, mais je vais parler
au Bétis.
Voilà. Au Bétis, voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, quand je vois un Africain qui pose ses valises du côté de Séville, quelle que soit l'équipe parmi ces deux équipes, je pense que cet Africain a beaucoup de chances de réussite. Et puis, bon, comme on le dit, Séville, l'Andalousie, c'est l'Europe, le début de l'Afrique.
Adama, j'ai mon cher ami aussi, Josimar, qui a joué du côté de Séville.
Voilà. Donc,
ça c'était je sais pas quelle année.
Voilà.
Alors, donc, rapidement, Adama, on va parler peut-être du Barça, avec ce qui se passe au niveau du Barça. D'abord, ils ont eu un match super puisqu'ils ont gagné 4 buts à 0.
Ouais.
D'accord,
bon, super, coach Lamine, super.
Non, non, mais comme, ils ont gagné 4-0.
Ils ont gagné.
Au vu du score, ouais, on peut dire super, mais pas dans le contenu du match. Hein.
Bah,
mais, moi, je peux vous dire.
Il faut quand même voir la performance d'Ansu Fati qui n'a pas été.
Exactement.
Voilà. Donc, il joue au Barça.
Et que Griezmann a des soucis à se faire parce que.
Oui,
au début, on dit que c'est Messi qui ne l'aimait pas. Et ça a commencé, les gens ont commencé à dire que c'est Koeman qui l'aime pas, donc lui il sera obligé de jouer au niveau de sa famille pour qu'on l'aime bien. Donc
non, mais je crois que Antoine Griezmann a toutes ses chances cette saison, il faut qu'il arrive à la saisir. Et vous voyez, Suarez. Bon, Suarez est parti, vous avez vu
il a marqué, hein, doublé.
Vous avez vu le tacle de Messi.
Voilà, justement, moi, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Est-ce que réellement la guerre est finie entre la direction de Barcelone et Messi? Parce que quand on lit ce que Messi a déclaré par rapport au fait que Suarez partait, en disant ça ne m'étonne pas, que de toutes les façons, rien ne m'étonne par rapport à cette direction-là.
Qu'il soit dégagé
de cette manière-là. Ça veut dire que jusqu'à présent, que ce soit contre l'entraîneur ou que ce soit contre la direction, Messi n'a pas fini de faire la guerre avec eux.
Non, coach Lamine, si vous regardez ceux qui ont connu Messi, si vous le regardez sur le terrain, vous regardez son visage, vous voyez un Messi qui n'est pas épanoui. Ça fait déjà presque 3 saisons.
Oui.
Et cette saison, c'est encore, on sent qu'il y a un Messi qui est triste.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Il est professionnel, il va jouer, il va donner ce qu'il va donner, mais la guerre entre Messi et la direction n'est pas du tout terminée. Et c'est vrai que Suarez, c'était son ami intime. Sur le terrain, dans les vestiaires, en dehors des terrains, les familles des joueurs se fréquentaient. Et donc aujourd'hui, Suarez est parti. Vous saviez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours, le doublé de Suarez. Mais c'est comme si c'est Messi qui avait marqué.
On en parle dans les journaux.
Oui, mais Adama, voilà. Je t'avais déjà dit qu'un joueur qu'on entend plus en dehors du stade que sur le stade a un problème de niveau. Messi baisse de niveau. Mais le problème de Messi, c'est quoi? Il veut toujours être derrière ses palmarès au lieu de jouer en 10. Il a les moyens de jouer 10, d'être en retrait derrière les attaquants. C'est ce qu'il ne veut pas, n'a pas envie de faire. Mais c'est tout.
Oui, mais aujourd'hui quoi qu'on dise, Messi sur le terrain, et moralement, ça réconforte sa troupe. Mais ce n'est pas le même Messi, n'oubliez pas.
Oui, mais ça depuis longtemps, il a changé depuis longtemps. Ça fait longtemps.
Il a 33 ans. Ouais. Il a 33 ans. Aujourd'hui, qui a donné la victoire au Barça hier devant Villarreal?
Ansu Fati.
Voilà. C'est d'origine, c'est un petit d'origine africaine. Il a encore 17 ans.
Les gars,
voilà.
Faut pas non plus ramener Messi comme un joueur qui s'appelle Hakim Jelouat. Hein.
Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est que le Messi qu'on nous vendait a baissé.
Coach Lamine, je peux vous dire que Messi, il arrive aux entraînements, il finit les entraînements, il s'en va, il parle à personne.
Ça va lui passer.
Même jeter un coup de regard à ses coéquipiers. Non, Messi est triste après le départ de Suarez. Mais je pense que le Barça, Koeman, la première erreur de Koeman, c'est de mettre à la porte Suarez. Il va falloir qu'il y ait un bon neuf pour essayer de supplier à Suarez, parce que tant que Suarez va continuer, il connaît bien la Liga, parce que c'est un joueur qui n'était pas fini totalement. Il a connu une fin de saison difficile avec 2 blessures, mais c'est un joueur que personnellement, moi j'aime bien, Suarez. Et Suarez est parti du côté de la Liga.
Il a une personnalité, il a encore des années devant lui. C'est vrai que Messi sans Suarez.
De quoi on parle? Est-ce que c'est Messi qui va décider du futur de Barcelone?
Mais c'est lui qui doit dire. C'est pas normal.
Est-ce que c'est lui qui doit dire je veux Suarez, je veux Christian Chango, je veux Hakim Jelouat, je veux Doyen Willy à mes côtés?
Un joueur ne peut pas se mettre au-dessus de.
Mais aujourd'hui, pourquoi il se fâche? Pourquoi il se fâche? Il s'est fâché. Dégage, c'est tout.
Coach Lamine, c'est son ami.
Mais et alors, on n'est pas là pour faire des amis, on est là pour jouer et faire des trucs.
Lui, il a voulu partir bien avant que Suarez soit dégagé.
C'est ça. Ouais. Et puis surtout, s'il se fâche, il est fâché évidemment, bien sûr, parce que Luis Suarez est parti. Il a perdu aussi Arturo Vidal, hein, son pote, ouais, le Chilien, avec
lui. Et aussi Rakitic.
Et Rakitic. Mais c'est surtout le problème, c'est pas Messi. Le problème, il est bien d'avant. En vrai, on l'a vu avec son transfert, pas transfert. C'est la direction, c'est tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. Messi peut avoir sa part, mais bon, les gars, soyons sérieux quand même. C'est un grand joueur, donc il est encore en place pour quelques temps à Barcelone, et que quelqu'un de meilleur soit meilleur que lui et le mette sur le banc,
vous avez raison, parce que laisser partir Suarez est une grande erreur.
Non, c'est pas une erreur.
C'est pas lui, ça. Pourquoi vous croyez que c'est une erreur?
Si, par contre, je suis d'accord avec lui.
Laisser partir Alves, on a vu ce que ça a donné après.
Luis Suarez, c'est simple, et c'est pas que Coman, puisque Adama, tu nous disais que c'était Coman. Mais c'était aussi la direction, surtout pour Luis Suarez, qui voulait les faire partir, casser un peu. Mais c'est pas que de la faute de Coman. Et on l'a vu pour Luis Suarez. Après, je vous laisse la parole. C'est Diego Costa qui en parlait dans la presse aujourd'hui. Il disait comment Barcelone a pu laisser partir Luis Suarez.
Mais tout simplement est en train de faire de la spéculation affective. Il ne veut pas que l'autre le dégage, c'est tout.
Coach Lamine, aujourd'hui, Suarez, comment il est parti? Qu'est-ce qu'il a apporté au football club de Barcelone? Moi, je peux vous dire, 95% des sociaux ne sont pas contents du départ de Suarez. Mais ça, ça a été la décision de la direction.
Et il a fait son boulot.
Très longtemps, il y a deux personnes qui ont sauté du bureau à cause de ce problème qui avait déjà commencé avant la Covid, pour commencer déjà à vouloir faire de la lessive au sein de l'effectif. On savait ceux qui étaient déjà, les noms qui circulaient déjà sur la liste.
Ça évitera qu'il meure.
Je pense qu'il y a tout ça qui, à un moment donné, qui a mené Messi à piquer sa crise.
Ouais, mais bon.
Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu.
Donc, il n'a qu'à jouer.
C'est la direction.
On fera le bilan. Le gars, il est arrivé, il est super motivé, il a marqué deux buts au niveau de l'Espagne. Ok. Il est motivé. Bon, mais on verra si.
Oh, minimum.
On prend le pari. 20 buts, on prend le pari.
Minimum, hein.
20 buts, je prends le pari. Je prends le pari.
Et puis, je vous dirais qu'il risque de faire mal au Barça. Hein. J'aimerais bien voir une rencontre Barça-Atlético de Madrid.
Messieurs, on va attaquer la Ligue 1.
Plein feu sur la Ligue 1, sur Africa.
Alors, rapidement, les résultats. Il nous reste quelques minutes pour finir avec la Ligue 1. En tout cas, il n'y a pas Suarez qui mord.
Ah non, on aimerait. S'ils avaient accepté qu'ils viennent au PSG, moi je leur accueille à bras ouverts.
Parlons
du PSG, victoire 2-0 face à Reims, un but partout entre Lorient et Lyon, un but partout entre Nîmes et Lens, Monaco-Strasbourg 3-2 pour Monaco, 3-2 victoire de Angers face à Brest, 2-2 entre Dijon et Montpellier, 0-0 entre Bordeaux et Nice, un but partout entre Marseille et Metz. Victoire de Rennes à Saint-Etienne 3-0 et Lille a battu Nantes 2-0 au classement, donc 4 journées. Rennes premier avec 13 points, Lille deuxième, Montpellier troisième, Saint-Etienne quatrième, Monaco cinquième, Lens sixième, Paris septième, Marseille neuvième, Lyon onzième et Dijon est 20e au classement.
Alors si on devait arrêter ici le championnat,
demain on fait confinement,
le PSG, ils sont morts.
Clair, hein.
Il y a pas de coup.
Ils vont pas porter plainte contre comme Lyon voulait le faire.
Mais messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué alors ce week-end, Hakim Djellouat?
Ce qui m'a marqué, moi, c'est le retour de ce joueur qu'on avait un petit peu enterré, Icardi, et notamment qui a joué contre Reims, un doublé, coach Lamine. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour lui, pour sa confiance. Il y a eu beaucoup de polémiques un petit peu autour de lui, lors notamment des dernières phases finales de Ligue des Champions. Mais là, je trouve qu'il est il est bien revenu, il a répondu présent. Et l'autre match, c'est Rennes, coach Lamine, avec nos chers joueurs et chers joueurs jeunes africains qui ont sublimé dans cette cinquième journée de Ligue 1 et qui tapent fort, malgré le départ effectivement d'Edouard Mendy, dont on a parlé tout à l'heure en Première Ligue. Pour Chelsea, mais Rennes qui a su avec ses forces et avec son courage, aller au bout de cette rencontre et battre une bonne équipe. Donc c'est une bonne chose aussi pour l'effectif rennais qui tape fort aussi en ce début de saison et qui pourrait faire quelque chose, pourquoi pas, cette année.
Christian Chango.
Lens, pour moi, la bonne surprise, hein, qui continue son bon début de saison avec quelques jeunes Africains qui découvrent la Ligue 1 et qui montent, notamment Ganago, hein, qui continue de...
Qui a été convoqué en équipe nationale, d'ailleurs.
Tout à fait, exactement, et qui continue de scorer avec Lens, qui est bien lancé, Kakuta notamment, mais vraiment Lens, qui est une équipe qui fait plaisir à revoir en Ligue 1, et c'est eux qui m'ont marqué en priorité. Après Monaco, qui, dans la douleur, qui ressort un peu l'eau de la tête, donc c'est bien. Et Lyon et Marseille, mais surtout Lyon, où c'est compliqué.
Doyen ?
Ouais, moi, c'est l'OM qui piétine, et j'arrive pas à comprendre. Et Lens,
ils sont pas bons.
Bravo, ouais, t'es pas du tout bon. Ça piétine, je comprends pas. Mais bravo à Lens. Un promu qui fait la tête haute, sixième place. Et bravo à Lens surtout.
Notre ami, il est pas là. Il est fâché parce que on a parlé de Luis Suarez qui n'était pas bon. Il a coupé.
El Mejor,
tu es parti parce que t'étais pas content. Mais c'est pas grave. Barcelone, de toutes les façons, ils sont pas à la hauteur. Il y a qu'Ansu Fati. Il voulait parler que d'Ansu Fati, quoi. Alors,
oui, mais il a bon. Prouvé le petit jeune.
Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce championnat de France, on voit que ce sont doyens. Des équipes qu'on n'attendait pas, qui sont là. Est-ce que c'est le fait de profiter un peu de la même forme des grandes écuries pour gagner des matchs, etc. Parce qu'on voit quand même Rennes, c'est normalement position 5,
ouais.
N'est-ce pas ? Position 4, 5, 6 même.
Oui, mais on est un sport. Donc l'hégémonie du PSG... Ça fait longtemps que les sportifs ils vont pas admettre cette hégémonie. Donc, ils se préparent un à un contre cette hégémonie. Et c'est ce qu'on voit là. On voit que des équipes sont prêtes à mettre à défi le PSG.
Ce qui n'est pas possible.
C'est pas possible, mais on voit que là, par rapport à demain, on fait le confinement et c'est Rennes qui est champion de France.
Qui est champion, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que, ouais, disons, donnons-nous jusqu'au mois de février et le championnat sera déjà réglé.
Ça me rappelle quelque chose, quand et Lille était devant et tu me disais un jour qu'ils seront fatigués, ils sont devenus champions de France.
Mais c'est vrai que pour Rennes, ils sont dans la continuité.
Rapidement, il nous reste deux minutes.
Rennes, ils sont juste dans la continuité de la saison et j'ai hâte de les voir comment ils vont encaisser la Ligue des Champions. Puisqu'ils vont commencer à. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Il y aura plus de matchs. C'est un jeune effectif. Donc, on va les suivre avec attention. Et juste pour terminer, Liverpool-Arsenal.
Non, 2 non, buts non, à je ne vais pas écouter.
Je donne le score. C'est la mi-temps. 2 buts à 1 pour Liverpool.
Ah, ben, ok, d'accord. Qui a marqué ?
But de
Sadio Mané, c'est Robertson, l'arrière gauche. Mais... C'est la ligne gauche qui domine du côté d'Arsenal.
De façon, ouais, le but de Robertson, on le donne à Sadio Mané.
À Sadio Mané, voilà, c'est point. C'est. Exactement. Alors, Hakim, rapidement, une minute.
Oui, non, simplement pour saluer, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, coach Lamine, en début de programme, les performances des joueurs africains. Donc, bravo à eux. Et on souhaite un très, très bon match amical pour l'ensemble des sélections africaines qui vont disputer leur rencontre prochainement pour la préparation justement des grosses échéances à venir.
Alors justement, pour les équipes qui vont jouer les matchs amicaux, rien que pour vous dire que pour le moment, c'est une programmation. On va voir à partir de lundi les matchs qui se sont joués et on fera bien sûr une bonne analyse et des commentaires par rapport à ces matchs-là.
Ouais.
Voilà, merci messieurs, c'est fini. Merci à la production et à la réalisation, Valentin Blanc. Merci, Doyen Willy.
Merci, coach. Merci, Valentin.
Merci à Hakim Djelouat, bien sûr, et à Christian Chango, qu'on va retrouver avec plaisir, bien sûr.
Merci, équipe.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.